Je les voyais ensemble dans leur appartement près du Trocadéro. Je les ai donc reçus ensemble dans notre studio. Ils étaient comédiens dans chaque geste de leur vie. Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault, encore inséparables.
Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault. Madeleine Renaud, s'il n'y avait pas eu Jean-Louis.
Et alors ?
Je pose la question.
Je suis sûre que je n'aurais pas eu... Ça a l'air bête de dire ça, mais la même destinée. Certainement, je serais restée tranquillement à la Comédie Française. Il m'aurait mis à la retraite cette année, à peu près, enfin. Oui, je crois que tout aurait changé.
Jean-Louis Barrault, s'il n'y avait pas eu Madeleine.
Ah bien, tout aurait changé aussi, bien sûr. Bien sûr, ça. C'est...
J'aimerais pouvoir mieux vous situer dans ce que nous sommes convenus d'appeler votre célébrité. Or, pour bien connaître un adulte, il faut remonter à l'enfance. Madeleine Renaud, quel enfant avez-vous été ?
Une petite fille très bien, très gentille et très heureuse, élevée par deux mamans, c'est-à-dire ma mère, qui a été veuve à 24 ans, qui est restée avec ma sœur et moi, et qui est venue habiter chez sa mère, c'est-à-dire notre grand-mère. Et à elles deux, elles nous ont péniblement, mais très bien élevées. En effet, très bourgeoisement, si vous voulez employer ce terme. Nous n'étions pas riches, mais nous n'étions pas pauvres. Nous n'étions pas gâtés, mais nous étions choyés.
Ce qui est très important.
Je crois.
Jean-Louis Barrault.
Eh bien, moi j'ai perdu mon père à la guerre de 14-18, j'avais donc 8 ans.
Un mois avant le 11 novembre, je crois d'ailleurs.
Oui, c'est ça, c'est gentil de vous le rappeler. Et j'ai été élevé pratiquement par mon grand-père, et qui était un ancien marchand de couleurs, un petit commerçant de la rue de Lévis à Paris. Et j'ai fait mes études au collège Chaptal.
Vous avez été pion aussi à Chaptal.
Oui, j'adorais les études, moi j'aimais beaucoup ça. Alors je trouvais que c'était le plus beau jeu qu'on puisse trouver. Et j'ai fait 10 ans à Chaptal comme élève, et puis ensuite comme pion, puis ensuite pour pouvoir vivre. Alors j'ai fait un petit peu tous les métiers, j'ai vendu des fleurs aux Halles pour pouvoir continuer mes études. Et puis, vers l'âge de 20 ans, où je n'avais pas cessé d'étudier et de gagner ma vie comme comptable dans la maison Lefranc ou bien aux Halles. Et j'ai écrit à Charles Dullin parce que j'avais envie de faire du théâtre depuis ma prime enfance. Mais je résistais parce qu'il me semblait que c'était devenir un mauvais garçon que de faire du théâtre, parce que mon grand-père ne partageait pas ces idées-là. Enfin, ne résistant plus, j'ai écrit à Dullin qui m'a reçu. J'ai passé une audition d'une façon tout à fait extravagante parce que j'ignorais tout ça. Et Dullin m'a pris immédiatement au théâtre de l'Atelier. Alors ma vie est partie d'un seul coup. Voilà.
Il fallait être ambitieux pour débuter dans ce travail à cette
c'est
époque-là
pas ambitieux.
Déjà.
Non, c'est pas ambitieux. C'est d'accepter la pauvreté et accepter la misère. Est-ce que tu es prêt à souffrir, m'a dit Dullin. J'ai dit oui. Est-ce que tu es prêt à crever de faim? J'ai répondu oui. Elle me dit alors je te prends. Voilà.
Ce n'était pas du tout la même chose pour vous, Madame Renaud.
Non, parce que moi, je me suis présentée au conservatoire à 17 ans. Et à 18 ans, j'ai eu mon second prix. Et la Comédie Française m'a pris pour faire la figuration, vous savez, comme font encore d'ailleurs les élèves. J'ai été prodigieusement heureuse à la Comédie Française. Je ne voyais pas un plus beau théâtre. Et j'y ai eu des camarades et j'y ai fait un merveilleux travail. Et j'ai eu le bonheur d'être mis en scène par Jouvet au moment du cartel, quand le cartel est venu mettre en scène aux Français, par Dullin, par Batty. Et j'y étais très heureuse pendant 20 ans.
Tu devrais dire comment ta maman t'a autorisée à faire du théâtre.
Ah oui, ma maman avait évidemment des intuitions, parce que quand je lui ai demandé de faire du théâtre, c'est-à-dire d'entrer au conservatoire, elle était à milieu de ça, et elle m'a simplement dit, écoute, je veux bien, puisque tu en as tellement envie, à une condition, c'est que tu n'ailles jamais jouer à l'Odéon, parce que c'est de l'autre côté de la Seine, car en effet, nous habitions à la rive droite. Eh bien, vous voyez, elle avait presque raison.
D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure. Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault, vous formez donc le couple parfait. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en 68, c'est anachronique?
Je ne crois pas. Je crois qu'il existe des couples
parfaits.
Oh parfait,
oui, moi, je crois aussi.
Non, non, mais je voudrais que vous me rassuriez.
Mais ah, oui, moi, je veux le croire. J'en alors, connais.
Alors, partons sur cet espoir. Jean-Louis Barrault, vous êtes l'homme proté de l'art dramatique. Vous pensez théâtre comme d'autres pensent philosophie, peinture, poésie. Vous avez ça en vous, vous l'avez dans la peau.
C'était un appel que je recevais dès mon enfance. J'avais envie de donner rendez-vous aux hommes. C'était surtout ça. Surtout, j'ai toujours eu un amour éperdu pour les êtres humains, pour l'humanité. Alors, et comme d'autre part, j'ai eu toujours eu un peu le sens de la solitude et de l'angoisse, j'ai toujours eu la présence de la mort avec moi, je sentais que chez les hommes, il y avait aussi cette même inquiétude, cette angoisse. Et je trouve que ce métier est un rendez-vous qui combat l'angoisse, qui rassure tout le monde. Et c'est pour pouvoir partager avec les êtres humains cette espèce d'inquiétude, partager les misères et aussi les joies que la circonstance nous propose, que nous nous donnons rendez-vous le soir dans un même lieu. Et à ce moment-là, on peut se livrer alors à des exaltations, tous ensemble, à communier tous ensemble, dans une espèce d'amour éperdu de l'existence.
Vous êtes arrivé au bout de vos idées?
Et moi, je crois qu'il y a eu... Enfin, si on faisait la... Si on prenait un certain recul, et nous pouvons dire que nous avons eu des satisfactions partout dans le monde, parce que la rencontre se fait toujours. Et c'est une rencontre charnelle, une rencontre de présence avec les êtres humains à travers le monde. Et là, c'est une source de bonheur profond.
Je vous regarde, et je ne sais pas si Madeleine Renaud sera d'accord. J'avais hier, à ce même micro, Marcel Marceau. Il y a quelque chose dans le visage, quelque chose de lunaire, le côté Pierrot, le côté oui. Mime, le même sourire, les cheveux qui se promènent, qui oui. gambadent, je devrais dire.
Marceau est un très cher camarade et que nous estimons beaucoup, que nous admirons beaucoup, que nous avons engagé en 1946 quand on a créé notre compagnie. C'est lui qui faisait Harlequin. Et j'avais fait passer une audition à deux jeunes gens. Il y avait Marcel Marceau et Maurice Béjart.
Et, ce sont des références.
Et alors j'avais choisi Marceau parce qu'il était plus filiforme pour faire l'Harlequin. Et pendant 2 ans, Marceau est resté avec nous. Et nous nous sommes liés d'amitié. Et je trouve qu'il travaille admirablement, avec une constance. Il a le sens de la durée et de la persévérance, ce qui est exceptionnel et ce qui est indispensable à un artiste.
Madeleine Renaud, vous avez donc, pour mari, un important personnage de théâtre qui doit être craquant de défauts. Qu'est-ce qu'il a comme défaut, Jean-Louis Barrault ?
Il n'a aucun défaut humain. Il a une seule chose, il a trop d'amour pour le théâtre. Et ça remonte
à... Ce qui veut dire ?
Eh bien, ça veut dire que, par exemple, en 1936, puisque vous aviez eu la gentillesse de nous rajeunir, mais qu'en effet, nous nous sommes connus en 36 et non en 40, et que nous étions en pleine idylle, en plein coup de foudre, eh bien, au milieu d'un rendez-vous d'amour, il me plaquait pour aller mettre Numance en scène au Théâtre Antoine. Moi, j'avoue que je ne comprenais pas. Voilà, c'est la seule chose où là, il y a un petit défaut... Chez Jean-Louis.
Est-ce qu'il est encore capable de faire des erreurs comme celle-là?
Oh, sûrement.
Mais ce que Madeleine oublie de dire, c'est que Madeleine était une grande sociétaire de la Comédie-Française, une grande artiste que j'admirais beaucoup, à part les autres sentiments que je pouvais éprouver pour elle, et que je suis un homme, et qu'on a besoin de se faire estimer par la femme qu'on aime. Et que si je me ruais sur Numance en 37... C'était pour lui prouver que j'étais capable de faire quelque chose digne d'elle.
Mais vous vous sentiez...
Il a recommencé en 68 pour me prouver qu'il était capable de refaire quelque Mandat. Chose et de faire rattraper.
Ben, c'était une bonne mauvaise raison.
À cette époque-là, lorsque Madeleine était à la Comédie-Française, est-ce que vous aviez un petit sentiment d'infériorité?
Oh, je n'avais pas de sentiment d'infériorité, non. Non, mais enfin, j'avais l'impression de... Je ne sais pas, et je me trompais. Pendant, je me trompais profondément, puisque depuis, je suis allé à la Comédie-Française et que j'ai presque autant aimé la Comédie-Française que Madeleine l'a aimé. Mais j'avais l'impression d'être un martien qui aimait une terrienne, enfin, ou le contraire. Enfin, nous
appartenions
à deux planètes différentes, mais nous nous trompions. Si on catalogue les gens très vite, car pour reprendre le thème de la bourgeoise, il y a une bohème dans Madeleine et il y a un paysan chez moi.
Qu'est-ce que vous appelez la bohème de Madeleine?
Madeleine est très bohème, Madeleine est une comédienne nomade, et elle a l'habitude d'avoir son sac à la main, son maquillage dans son sac, de prendre le train, de patienter des heures dans une salle d'attente de gare pour aller faire ce que, dans le jargon de théâtre, on appelle un cacheton, et d'aller dans des villes de province jouer. C'est une véritable comédienne nomade. C'est pas du tout la... là, justement, la comédienne en bourgeoisie.
Si, par exemple, Jean-Louis Barrault rompait le pacte de cette vie à deux que vous avez, pour le travail, bien entendu, est-ce que vous seriez capable de partir 15 jours avec armes et bagages pour bien lui montrer que, dans le fond, vous pouvez vivre toute seule?
Oh, 15 jours, oui.
Pas plus.
Mais grand maximum. Non, je l'avoue, ne vous moquez pas de moi et que personne ne se moque de moi. Il était parti 5 semaines l'année dernière, nous étions donc encore à l'Odéon. Il est parti mettre Carmen en scène à New York, au Métropolitain. J'ai vraiment beaucoup souffert. Souffert comme si j'avais une jambe ou un bras en moins. Enfin, souffert, vous comprenez, j'ai tout de même mangé, j'ai tout de même dormi, mais j'étais pas bien.
Vous sortiez pas le soir, enfin?
Non, j'allais jouer, bien sûr. Vous savez, moi, j'ai pas eu beaucoup de jours de relâche, vous voyez, je suis une comédienne heureuse. Mais j'étais pas bien, on n'est pas bien, vous comprenez. Et je trouve que c'est déjà un énorme sacrifice que nous faisons notre profession en jouant l'une au Palais de Chaillot et l'autre à la butte Montmartre.
Vous parliez à l'instant de Carmen à New York. On m'avait dit que, comme vous êtes un être très minutieux, que vous vous étiez fait tirer les cartes pour bien montrer comment Carmen, la parfaite Andalouse, pouvait... tirer les tarots.
J'ai étudié effectivement la scène des cartes avec une gitane qui m'a montré comment on tirait les tarots et je me suis aperçu que Bizet avait tout à fait étudié les cartes aussi. Et c'est en regardant et en tirant les cartes à l'aide de cette dame gitane, ça, et qui est la mère de Hélène Triana, celui qui faisait la chorégraphie. Et c'est en tirant les cartes que j'ai reconnu toutes les notes de Bizet. Et tout correspondait. En 2 heures, la mise en scène s'est faite en copiant exactement la réalité du tirage de cartes.
C'est là véritablement qu'on reconnaît Jean-Louis Barrault. C'est le 17 octobre 1946 qu'est née la compagnie Renaud Barrault. Et vous êtes allé de théâtre en théâtre. Je ne me trompe pas sur la date.
Oui, exactement.
36, vous comprenez, 36, 40...
Non, 17 octobre.
Bon, alors je répète, 17 octobre 1946. Et vous êtes allé de théâtre en théâtre, vous êtes allé de Claudel à Feydeau, de Camus à Paul Féval. C'est une grande aventure.
Oui, c'est une grande aventure. Nous nous étions promis, Madeleine et moi, en créant cette compagnie avec nos camarades, de pouvoir faire le tour du monde grâce à notre travail et de présenter des pièces modernes, de servir les auteurs modernes, mais de nous entretenir aussi en montant quelques classiques et puis d'inscrire à notre répertoire des styles différents comme le vaudeville avec Occupe-toi d'Amélie ou bien le mélo avec le bossu ou bien l'opérette avec La vie parisienne, par exemple. Et nous trouvons que la vie étant un complexe, il fallait que la production théâtrale de notre compagnie soit aussi complexe que la vie, c'est-à-dire qu'elle porte aussi bien sur la tragédie que sur la comédie, la farce, le mélo, et que c'était une bonne manière pour assouplir les acteurs. C'est une belle aventure que nous avons faite.
Quel était le patron? Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault?
Oh, il n'y a pas de patron. Non, je me suis jamais senti patron ni directeur.
Est-ce que vous trouvez qu'il vous a toujours donné de bons rôles?
Oh, mais écoutez, ce n'est pas à un directeur à vous donner des beaux rôles, c'est aux auteurs à vous les apporter. Et ça, pour cela, je pense que j'ai été gâtée au point de vue comédienne. J'ai un petit peu peur pour l'avenir, enfin pour l'avenir, je parle de ma profession, parce que je trouve qu'il manque un peu d'auteurs qui pensent à des acteurs, et Dieu sait que je n'ai pas à me plaindre puisque je joue Marguerite Duras, qui est une des femmes les plus talentueuses et les plus vivantes, n'est-ce pas, de notre époque. Mais quand on voit un petit peu la production, on trouve que l'auteur
Mais comment se fait-il
rare.
Qu'il n'y ait pas d'auteur aujourd'hui?
Ah ça, moi je vous le demande, je ne sais pas.
J'appelle l'auteur contemporain.
Oui. Moi je crois qu'il y a des écrivains qui ont beaucoup de talent, mais que l'existence étant tellement en transformation en ce moment, est tellement extraordinaire, qu'un auteur est intimidé. Moi, ce qui se passe en ce moment avec Apollo 8 peut intimider un auteur. C'est tellement fantastique. Quelle pièce de théâtre peut rivaliser avec l'intérêt dramatique d'Apollo 8 en ce moment, par exemple?
Ce sont quand même deux choses tout à fait différentes.
C'est différent, non, parce qu'on puise dans la vie.
Est-ce que ça peut faire un spectacle, Apollo 8?
Oh non.
Plus tard.
Non, parce que c'est déjà un spectacle. Il n'y a pas de transposition possible. On ne peut être qu'en deçà quand on le transpose sur la scène. Si bien que je crois qu'il faut faire des transpositions orientées vers l'intérieur. Alors les abîmes du cœur humain sont inexplorés, beaucoup moins que la Lune.
Votre compagnie groupait combien de comédiens ?
En général, nous étions une vingtaine de comédiens fidèles, n'est-ce pas ? Et puis, nous atteignions à peu près une cinquantaine de comédiens.
Est-ce que vous avez toujours surveillé de très près les opérations financières ? Dans une affaire comme celle-là, il faut considérer
laquelle, ça comme une affaire. Quelle opération financière ?
La compagnie, en général.
Ah ben, la compagnie a eu de différentes phases. Nous avons été compagnie totalement privée, je veux dire, seule, sans ni mécène ni subvention. Jusqu'en 58, n'est-ce pas ?
Oui.
Et c'est en 58 que M. André Malraux nous avait confié l'Odéon Théâtre de France. Alors là, pendant 9 ans, nous avons évidemment eu la subvention que l'on donne en général au Théâtre d'État.
Est-ce qu'on est beaucoup plus libre sans subvention ?
Je ne peux absolument rien dire parce que pendant 9 ans, nous avons eu une totale liberté. Ce serait une injustice de ma part.
Oui, nous n'avons pas cessé d'être libres. Les difficultés financières pour une entreprise privée sont grandes. Et c'est pour cela, tout à l'heure, que je vous disais que j'étais un paysan, c'est que dès la création de notre compagnie, j'ai eu toujours mon carnet de blanchisseuse dans ma poche et que j'adore faire les comptes. Mais quand nous avons été au Théâtre de France, malgré le soutien de la subvention d'État, les difficultés financières étaient aussi grandes aussi. C'est toute la vie économique du théâtre est très, très difficile.
On va revenir maintenant à un problème d'actualité. Problème peut-être qui va vous paraître difficile, mais il faut quand même le traiter. Un soir de mai, vous avez proclamé « Barrault est mort ».
Ah oui, cette fameuse phrase.
N'était-ce pas un mot de trop, une phrase qu'on pourrait dire stupide ?
Mais non, parce qu'elle a été dite avec humour noir.
Non, elle a surtout été dite dans un contexte que, oui. Que bien peu de personnes ont connu.
Mais est-ce que vous la regrettez, cette phrase « Barrault est mort » ?
Mais non,
d'abord,
non.
C'est une merveilleuse phrase.
Bon, d'abord, la phrase est tronquée en ce moment. J'ai dit « Barrault est mort, il reste un homme vivant ». Ça voulait dire que le Barrault officiel de Bourneville, pour moi, jamais existé. Donc, ça m'était très facile de le tuer, car j'ai jamais eu le sens de l'officiel. Et que, et au contraire, j'avais un sens énorme de l'existence de l'homme. Et alors, j'ai dit « Barrault est mort, il reste un homme vivant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Et si je vous disais pendant une demi-heure, devant 2000 personnes qui vivent une période romantique et tout à fait dans la fièvre et délirante, n'est-ce pas ? Si je vous disais pendant une demi-heure que vous êtes mort, que vous n'avez jamais existé, que le Théâtre de France n'existe pas, que la culture n'existe pas, ce que disait Cohn-Bendit, n'est-ce pas, sur la scène, vous répondriez avec humour, ben oui, je suis parfaitement d'accord avec ce monsieur, moi je suis mort, et puis il reste des hommes vivants, alors maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Voilà exactement ce qui était la phrase, vous comprenez ?
Vous la regrettez, cette phrase ?
Absolument pas.
Vous, Madeleine Renaud, ça vous a passé ?
Oh, pas du tout, je lui ai même dit en rentrant... Tu as eu une réponse formidable. Alors, vous voyez, je suis une idiote, probablement.
Vous étiez Jean-Louis Barrault, le capitaine d'un navire appelé Théâtre de France. Vous avez abandonné le navire, non ?
C'est pas moi qui ai abandonné le navire.
J'aimerais que vous m'expliquiez.
Oh non, pourquoi vous voulez remettre ça ? Moi, ça m'est absolument désagréable, vous comprenez ?
C'est vrai ?
Non, voyons, alors, il n'y a aucune rancune, rien du tout, aucune rancœur. Il y a eu j'ai ma petite opinion personnelle là-dessus. Mais enfin, vraiment, je trouve que ce serait de mauvais goût.
Non, mais vous savez, Jean-Louis Barrault,
ceux
qui aiment le théâtre ne le jugent pas du tout comme ça. Vous le prenez mal, je crois. Ça a été une terrible aventure pour tout le monde, pour ceux qui aiment le théâtre. Je me rappelle, lorsque vous avez abandonné l'Odéon, c'était dans un contexte qui était très particulier, dans
un moment qui était très grave. Je me permets de vous interrompre. Qu'est-ce que vous appelez abandonner l'Odéon ?
Non, je sais bien que ce n'est pas vous qui l'avez abandonné. Mais c'est arrivé dans une telle fièvre que c'était désolant de laisser l'Odéon au Théâtre de France à l'instant où
non,
vous
mais,
l'avez
alors,
laissé.
Mais... Alors, attends, vous voulez des faits, alors ?
Oui.
Et puis, bon, on sent bien que vous m'avez demandé de venir pour ça, dans le fond. Bon. Eh bien, on me donne l'ordre d'ouvrir les portes et d'entamer le dialogue avec les étudiants. J'ai donc obéi à un ordre du ministère en laissant les étudiants entrer. D'ailleurs, comment les aurais-je empêchés d'entrer puisqu'il n'y avait aucune police dans le quartier ? D'ailleurs, je n'aurais pas pu appeler la police pour ça. Bon, ça... Ensuite... Nous sommes restés pendant un mois. Et nous sommes restés, nous avons assuré une permanence avec les personnels techniques, les acteurs. Nous avons essayé de sauvegarder la bâtisse, de sauvegarder la bâtisse de l'incendie, des cocktails Molotov. Nous avons essayé d'éviter le sang et nous avons essayé de maintenir l'unité professionnelle.
J'étais là et c'est vrai.
Bon. Eh bien, c'était nos trois objectifs. À partir du moment où on nous donnait l'ordre d'ouvrir les portes, c'est-à-dire où le gouvernement donnait l'Odéon aux étudiants, comme il avait donné la Sorbonne, nous, nous n'avions qu'une seule chose à faire, c'est éviter le sang, c'est éviter les incendies, et c'est de garder l'unité professionnelle.
Tout à l'heure, Jean-Louis Barrault, voilà. Vous avez eu une phrase de trop. Vous avez dit, vous m'avez fait venir pour ça, c'est pas du tout vrai. Bon. Mais je crois qu'il aurait été quand même surprenant que nous n'en parlions pas ici.
Bon, vous croyez que la page n'est pas tournée maintenant ?
La page est complètement
une
tournée
page
maintenant.
Comme ça dans le théâtre ne peut pas être tournée, on est obligé de la garder un peu pour soi.
Oui, eh bien, il faut que en effet, que les auditeurs, que ce public admirable qui nous a suivis depuis le premier jour et qui nous a fait, parce que vous savez, il n'y a qu'une chose qui fait un artiste.
Hein, le public.
C'est le public, et puis il ne faut pas l'oublier, n'est-ce pas ? Bon. Eh bien, nous avons donc, moi je le dis, je n'ai pas honte à le dire, parce que je dis « je ». J'ai cruellement souffert. Et vous voyez, je n'ai pas du tout souffert de ne plus être à l'Odéon avec une loge confortable. Il y a une chose que je déteste et qui me fait le plus mal, la seule peut-être, dans les actes humains, c'est l'injustice et le gâchis. Et celui qui voudra me dire qu'il n'y a pas eu injustice et qu'il n'y a pas eu gâchis d'ailleurs qui continue allègrement, je suis prête à lui donner les preuves.
Bien, voilà un point d'histoire parfaitement éclairci. Donc, vous n'étiez plus à l'Odéon, vous n'êtes plus à l'Odéon, et je me rappelle, vous avez dit à ce moment-là, Jean-Louis Barrault, maintenant nous allons avoir le temps de nous aimer et d'être parfaitement heureux. Mais vous n'avez pas eu le temps, car très peu de temps après, vous avez monté une nouvelle aventure, vous êtes parti du côté de Montmartre, vous avez investi une chose qu'on ne pouvait pas prendre, sauf si on était un catcheur, vous avez pris l'Élysée Montmartre. Et là, je dois dire chapeau, car c'est du courage. Et peut-être plus du courage, je crois que c'est de la foi dans le théâtre, c'est de l'amour du théâtre. Car pour vous, c'était une revanche, il fallait faire quelque chose. Vous ne pouviez pas rester comme ça, à attendre.
Ah oui, il se trouvait que j'étais comme une femme enceinte, puisque j'avais préparé ce Rabelais, que ce Rabelais devait être la première création du Théâtre de France. Il a bien fallu que je satisfasse cette envie et que je monte ce Rabelais. Je me suis rappelé l'Élysée Montmartre, le pâté de maison où j'avais fait mes débuts avec au théâtre de l'Atelier avec Charles Dullin. Et immédiatement, j'ai été accueilli par Roger Delaporte,
le directeur,
qui m'a accueilli très gentiment. Et puis l'aventure s'est déroulée.
Il faut dire aussi, Jean-Louis, que ce spectacle de folie, car bien sûr, c'est une folie, comportant une quarantaine de personnages, ça nous a permis de garder avec nous la plus grande majorité de nos camarades, vous comprenez ?
C'est-à-dire, c'est la compagnie qui se poursuit. En
c'est la compagnie qui se poursuit.
Et en plus, donc, l'Élysée Montmartre, Rabelais, toute la critique est d'accord, unanime. C'est du courage, c'est un triomphe, ça marche très bien, comme le disait tout à l'heure José Arthur. Mais en plus, vous avez fait appel à un jeune, à Michel Polnareff, pour la musique.
Ah, oui,
là,
oui.
Vous dépassez déjà le cadre.
Oui, mais je crois que ça a été une réussite parce que Michel Polnareff a des qualités de grand musicien et il a admirablement compris, non seulement sur le plan musical, mais sur le plan théâtral, l'entreprise de Rabelais. Et Madeleine, qui joue sur sa colline de Chaillot, la pièce de Marguerite Duras, et puis moi qui suis sur la colline de Montmartre, de temps en temps, nous nous faisons des signes, mais nous avons l'impression d'être très très loin l'un de l'autre.
Donc l'Élysée Montmartre, la salle Gémier, Rabelais, la menthe anglaise.
Voilà.
Mais comment se fait-il qu'il y ait une telle séparation
le
après
hasard.
Ce qui s'est passé?
Ah, c'est
parce
le
que
le
vous
hasard.
Êtes allés chacun de votre côté.
Ben, y avait
et
pas
le
drôle.
Même soir, je crois.
Oui, oui, il n'y avait pas de rôle pour moi dans Rabelais, c'était très simple.
Oui, que même De Sailly et Simone Valère n'avaient pas de rôle dans Rabelais. N'est-ce pas? Mais sans ça, c'est...
Nous avons été les trois à ne pas avoir de rôle dans Rabelais.
Est-ce que c'est dur d'être sur des scènes séparées?
Écoutez, une fois qu'on a commencé à interpréter son rôle, on ne pense plus au reste.
Madeleine Renaud, on va vous voir à la télévision.
Ah oui, c'est vrai, Les Grandes Espérances.
Les Grandes Espérances, oui. Avec Vanel.
Avec Vanel et mis en scène par Craven, qui a été un merveilleux directeur d'acteur, vous voyez.
Si vous vouliez maintenant demander quelque chose à la vie, qu'est-ce que vous demanderiez? Vous avez tout comme acteur et vous avez tout sur le plan du bonheur.
Bien, mon Dieu, que le ciel me permette de continuer.
Jean-Louis Barrault.
Moi aussi, exactement, d'avoir assez de santé et pour pouvoir continuer l'existence que nous avons eue.
Et qui que nous n'a avons pas choisi.
Et que nous avons choisi. Et
j'espère que ça durera longtemps encore.
Espérons, oui.
Vous voyez, il va être bientôt 18h. Il y a eu beaucoup de voyages à travers la France. Il y a eu une minute d'émotion, et j'appelle l'émotion, c'est le point de friction lorsqu'on a parlé de Barreau est mort et de Gédéon. Mais c'était simplement pour bien fixer les choses. Je crois que tout s'est bien passé quand même. Je vous remercie, Madame Renaud.
Très, très gentil.
Je vous remercie, Jean-Louis Barreau.